Rayon libre.
Visiblement, il semblerait que vous n'appréciez pas la bicyclette, mes amis, hein ? Vous estimez sans doute que le monde n'a pas besoin de pratiquer le vélo, hein ? Que le monde n'a pas besoin d'un peu de cyclisme ni de savoir-vivre, hein ?
Rayon libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge, hein ?
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 14h, nous sommes le lundi 31 mars 2025 et nous sommes en direct aujourd'hui, les amis. Et cette semaine, le vélo pour ne pas oublier. Alors avant que je n'oublie, justement, des merci. Merci à vous qui nous écoutez, qui relayez cette émission, qui commentez, qui nous encouragez. Vous aussi qui faites un don pour l'association qui héberge Cause Commune. Oui, on fonctionne aux subventions. Inutile de vous dire qu'elles sont comme le glacier d'Argentière. Elles fondent et pour compenser ce climat, on compte sur vos dons. Sur la page d'accueil de Cause Commune, vous trouverez tout, vous vous laissez guider et puis vous donnez. Merci à vous. C'est étrange la mémoire. Hein. Êtes-vous comme moi, avoir cette impression d'avoir passé votre vie à apprendre et passé votre vie à oublier. Passer sa vie à apprendre de petites ou grandes choses, apprendre de manière empirique ou par transmission, acquérir une forme de connaissance par instinct et apprendre d'autres savoirs après un travail d'ingestion et de réflexion. Apprendre ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, apprendre à aimer en apprenant à connaître. Ce process marche pour tout, sauf nos enfants. On les aime immédiatement sans les connaître. Passer sa vie à oublier aussi. J'ai oublié les réveils à 2h du matin, puis 6h du matin pour donner un biberon. J'oublie beaucoup. J'oublie ou suis-je incapable de mémoriser? Demandez-moi quel livre je suis en train de lire. Je suis incapable de vous affirmer sans doute qui est l'auteur et le titre du livre. Demandez-moi quels sont les vins que je préfère et je suis rouge de honte tellement ma réponse est blanche, rouge de honte, pas vraiment. Ma famille de vignerons me pardonne et puis je ne bois plus de vin. On dit souvent, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Comme si faire du vélo est une compétence que l'on acquiert pour toujours. Est-ce si vrai? Et si on s'intéressait au vélo pour ne pas oublier? Si la pratique du vélo permettait de continuer à apprendre, repousser le moment où on commence à oublier les grandes choses de sa vie? Je conclus chaque rayon libre avec cette maxime, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Pour être honnête avec vous, selon moi, une journée au cours de laquelle je n'ai rien appris, c'est pas mieux. Je n'ose imaginer une journée au cours de laquelle je ne ferai qu'oublier. Aujourd'hui, avec mon invité, je vais tenter de comprendre, on va tenter de comprendre ensemble comment fonctionne le cerveau et surtout quels sont les bienfaits constatés du vélo sur le cerveau, sur la lutte contre cette maladie, qui est Alzheimer. Le docteur Marion Lévy est directrice scientifique de la fondation Vaincre Alzheimer, qui lance dès le 2 avril, cette campagne Bouge ton cerveau avec cette promesse, bougeons pour prévenir le déclin cognitif. Bonjour Marion Lévy, merci d'être en studio avec nous aujourd'hui.
Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir.
Eh ben c'est un plaisir, Marion. Marion, la recherche, elle continue à apprendre sur cette maladie de l'oubli?
Oui, exactement. Alors, surtout ces derniers temps, en réalité, on fait énormément de découvertes. La recherche continue toujours sur la maladie d'Alzheimer, qui, je le rappelle, donc est une maladie qui, globalement, fait qu'on va avoir une perte de mémoire, en effet. La plupart du temps, la mémoire courte, en fait.
Immédiate?
Alors, immédiat, oui, on parle vraiment de faits récents. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on appelle la mémoire immédiate, ça va être plutôt la mémoire de travail. Donc, c'est vraiment sur les quelques secondes, quelques minutes qu'on retient une information. La maladie d'Alzheimer, ça va être plutôt sur les faits récents, notamment ce qu'on appelle la mémoire épisodique, qui est une mémoire sur les événements qu'on vit dans la vie quotidienne. Ouais. Et globalement, un exemple, par exemple, c'est de ne pas se souvenir que 2 jours avant, on a été à l'anniversaire de son petit enfant, par exemple. Ouais. Ça va être plutôt à ce niveau-là que ça va se jouer. Bien sûr, parfois la mémoire immédiate aussi, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a d'autres symptômes qui vont être, par exemple, avoir des difficultés à se repérer dans le temps, mais aussi dans l'espace, des problèmes pour communiquer, donc le langage va être affecté pour certains cas. Et par exemple à utiliser des objets de la vie courante.
Donc ça veut dire que potentiellement, quand je dis le vélo ça ne s'oublie pas, en vrai, quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, il oublie de savoir faire du vélo.
Ce qu'il va peut-être oublier, c'est surtout l'objet en lui-même, le vélo en fait, les fonctions par exemple d'un vélo, etc. Après ça, on parle vraiment, quand on commence à arriver sur ce type de perte de mémoire, ça va être quand même des cas moyen à même sévère. Donc là, on est vraiment sur les derniers stades de la maladie d'Alzheimer. Le vélo, en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle la mémoire procédurale, par exemple. C'est vraiment cette même mémoire qui nous permet de savoir comment on fait nos lacets, etc. Ouais. Quoi. C'est vraiment le côté action.
Parce que ça veut quand même dire, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quelqu'un qui est atteint de la maladie d'Alzheimer, il peut oublier de savoir faire ses lacets.
Potentiellement, mais vraiment sur les derniers stades de la maladie, en effet. C'est surtout utiliser les objets de la vie courante. Donc, ouais. Ça va être aussi, par exemple, la fonction de ciseaux, par exemple, ou un téléphone. Ne ouais. pas savoir exactement à quoi va servir ce téléphone et comment l'utiliser.
Alors, Marion, peut-être que c'est intéressant de... Alors, on aurait pu commencer par là, mais c'est pas grave. Vous êtes directrice scientifique de la Fondation Vaincre Alzheimer. C'est quoi, cette fondation?
Alors, la Fondation Vaincre Alzheimer, c'est une fondation dont le but est de vaincre Alzheimer. Ouais. Et comment on fait ça? En fait, ben, on le fait via nos trois missions. Donc, on a vraiment trois missions, dont notre mission principale va être le financement de la recherche médicale sur cette maladie. Donc, globalement, tous les ans, on invite les chercheurs à nous envoyer leurs projets de recherche sur cette maladie d'Alzheimer, mais aussi sur les autres maladies neurocognitives. Ouais. Et à la fin de cette année-là, à travers notre comité scientifique, on va évaluer et soutenir les meilleurs projets de l'année. Et donc, vraiment, on va soutenir la recherche d'excellence, parfois aussi la recherche européenne et mondiale, parce qu'on a des projets collaboratifs à l'international qui nous sont soumis aussi. Et on a aussi deux autres missions qui vont être surtout pour améliorer la qualité de vie et surtout la prise en soin des patients Alzheimer, en soutenant par exemple la formation de professionnels de santé. Ouais. Et cette dernière mission qui est vraiment pour sensibiliser le grand public à la maladie d'Alzheimer, pardon, et aussi à comment la prévenir. Et c'est un peu dans ce cadre-là que je suis ici.
Oui, parce que ce qu'il faut dire aux auditeurs et auditrices, c'est que le 2 avril, donc mercredi, est lancée une campagne qui s'appelle Bouge ton cerveau pour lutter contre le déclin cognitif.
Exactement.
Sans être trop technique, c'est quoi les liens entre le cerveau et l'activité physique, justement en ce qui concerne ce déclin cognitif?
Eh bien, il y en a vraiment beaucoup, parce que maintenant, la recherche, c'est aussi ça, c'est aussi regarder un petit peu dans quel contexte on peut prévenir cette maladie. Et un des facteurs, ça va être de faire de l'activité physique. Et qu'est-ce qu'on a appris à travers la recherche, justement, c'est que l'activité physique pourrait réduire de 35 à 45% les risques d'avoir un déclin cognitif. Ça dépend des études, hein, entre le 35 et le 45. Le déclin cognitif, c'est quoi? Ça va être très généralement, en fait, tout ce qui va être donc perte de mémoire, mais perte aussi de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, donc la planification, l'organisation, tout ce qui vous permet donc, voilà, de réfléchir.
L'anticipation, ouais.
Exactement, l'anticipation. Donc toutes ces fonctions-là peuvent, avec la maladie d'Alzheimer par exemple, vont être affectées, et l'exercice physique permettrait de réduire les risques. Alors on parle vraiment de risques d'avoir ce déclin cognitif.
Est-ce que ça les réduit, les risques, ou est-ce que ça les décale, ou est-ce que ça les ralentit?
Alors ça, pour l'instant, on n'a pas forcément la réponse, on va vraiment pas, parce que c'est souvent sur des études épidémiologiques, c'est-à-dire qu'en fait on va prendre un gros groupe de population, ouais. Et on va regarder rétrospectivement qu'est-ce qu'ils ont fait comme activité physique et s'ils ont eu ou non un déclin cognitif avec l'âge. Donc c'est très rétrospectif, c'est très observationnel.
Et c'est sur de long cours.
Voilà, en plus. Et donc du coup, c'est aussi très déclaratif. Donc il faut vraiment que les gens sachent exactement comment est-ce qu'ils ont fait de l'exercice physique, ce qui n'est pas toujours évident comparativement à une étude où justement là on prend différents groupes de personnes et on leur dit quoi faire et on fait des tests réels. Donc pour l'instant, on peut vraiment parler surtout d'une réduction des risques du déclin cognitif. En revanche, ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'on peut voir des réels effets sur le cerveau directement, et les chercheurs sont en train d'essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne après une activité physique, par exemple. Et donc ça, on le sait maintenant. Par exemple, on va avoir une prévention de la diminution du volume du cerveau, et notamment d'une région particulière dans le cerveau qui est une région dédiée un peu à la mémoire.
Ouais.
Cette région-là qui s'appelle l'hippocampe, elle est diminuée, par exemple.
Elle est derrière, non, l'hippocampe?
Elle est plutôt au milieu.
Au milieu, d'accord.
Cerveau.
Ouais.
Derrière, ça va être le cervelet, ça va être pour l'équilibre, par exemple. Et donc, en fait, cette région, elle est, le volume est un peu diminué déjà dans le cas de patients Alzheimer. Et donc, en fait, ce qu'on a pu voir, c'est que l'exercice physique, elle permet de prévenir, d'éviter un peu cette réduction du volume. Et comment, et c'est ça qui est super impressionnant et fascinant, c'est que ça va permettre de favoriser
Je vous en prie, en fait, le cerveau, il faut savoir que c'est un muscle.
C'est,
est-ce alors, que c'est un muscle
c'est, C'est pas vraiment un muscle, ouais. Parce que du coup, enfin, on peut l'entraîner, mais pas de la même manière qu'un muscle.
Ouais.
Et donc là, pardon, donc ça va favoriser la formation de nouveaux neurones,
ouais.
et ça va aussi les protéger. Et donc en fait, le fait d'avoir plus de neurones fait que ça va compenser le fait d'avoir une diminution de ce volume du cerveau. Et ce qui est passionnant, c'est que ça se fait directement à travers l'activation de nos muscles,
ouais.
qui vont libérer une protéine bien spécifique qui va activer justement toutes ces...
Et qui va permettre à cette zone du cerveau de rester à un volume plutôt grand, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, et exactement, et qui va aussi faire plein d'autres choses dans le cerveau qui sont bénéfiques en fait.
Si on parle de vélo, est-ce que vous faites des études sur les bienfaits cognitifs de la marche comparée au vélo, ou du vélo comparé au vélo assistance électrique, ou d'une activité physique comparée à une autre ?
Alors, entre activité physique, c'est plus difficile de trouver des études, parce qu'en règle générale, déjà, les études sont faites déjà en termes d'activité physique.
Ouais.
Donc souvent, ça va être très global,
ouais.
À savoir quel type d'activité physique. Ça va être spécifique. Mais par exemple, j'ai trouvé une étude où justement, ils regardent, en effet, là, ils comparent l'activité physique. Alors, le vélo, pardon. Mmh. Entre le vélo normal et le vélo électrique.
Ouais.
Alors du coup, cette étude, elle est rigolote, parce que donc c'est sur 3 groupes de personnes. Donc ils l'ont regardé sur des gens qui avaient plus de 50 ans,
ouais.
et qui ne faisaient plus de vélo depuis au moins 5 ans, ou en tout cas qui avaient réduit drastiquement leur activité. Et ce qu'ils ont comparé, c'est donc un groupe contrôle qui ne faisait pas de vélo, un groupe qui faisait du vélo normal et un groupe qui faisait du vélo électrique. Et ils se sont aperçus que, en tout cas, les deux groupes qui faisaient du vélo avaient donc ce qu'on appelle les fonctions exécutives qui étaient améliorées,
ouais.
après 8 semaines de vélo. Chez les gens qui faisaient du vélo électrique, on voyait aussi une amélioration de la santé mentale.
Ouais.
Et donc c'était très intéressant, parce que justement, bah, ils se sont posé la question de pourquoi le vélo électrique spécifiquement, et ils se sont aperçus que globalement, c'était pour les gens, c'était moins stressant de faire du vélo électrique, parce que du coup, parfois on ne sait pas trop si on va avoir l'énergie pour, ouais. revenir chez soi. Mais aussi, par exemple, ils faisaient plus longtemps du vélo. Donc en fait, du coup, c'était plus bénéfique à ce niveau-là. Et donc ils ont pu comparer ça. Et pardon.
Mais pardon, oui, les résultats de cette étude ne disent pas que de faire du vélo électrique, c'est mieux que de faire du vélo classique ou musculaire. C'est juste que quand on fait du vélo électrique, on y va plus facilement, plus souvent, on fait plus de kilomètres.
Voilà.
Est-ce que cette étude, par exemple, elle montre quelqu'un qui a fait, peu importe, la même quantité de vélo musculaire ou électrique, est-ce qu'on voit une différence ou pas? Non, je pense pas.
Pas forcément, mais en fait, ce que cette étude montre, et la conclusion globale de cette étude qui est, je pense, très intéressante, ouais. c'est que finalement, ça permet aux gens qui n'oseraient pas se mettre au vélo de commencer à faire du vélo. C'est une sorte de motivation supplémentaire, ouais. en se disant, en fait, ça sera pas si compliqué que ça, et c'est toujours mieux que de ne rien faire du tout.
Ouais.
Donc en fait, là, il parle pas forcément de l'intensité de l'exercice, mais plutôt du côté
facile de s'y mettre.
Facile, d'apprécier surtout,
ouais.
cette activité-là. Et je pense que c'est le plus important, c'est de trouver une activité physique qu'on aime faire.
Ouais.
Et c'est ça qui nous permet de la maintenir, en fait.
Justement, quand on vous dit une activité physique qu'on aime faire, est-ce qu'il y a une notion de plaisir? Est-ce que le plaisir joue sur la prévention d'une maladie comme la maladie d'Alzheimer?
Oui, complètement. Alors, c'est surtout que... déjà, le fait d'aimer faire une activité physique fait qu'on va la faire régulièrement,
oui.
parce qu'il y a aussi cet aspect de régularité. Il faut, finalement, les recommandations de l'OMS, qu'est-ce qu'elles disent? C'est 150 minutes à peu près par semaine, oui. d'activité physique modérée à intense. Et donc, c'est toutes les semaines qu'il faut faire ça. Donc, il faut trouver l'activité qui nous permettra de rester motivés toutes les semaines. Donc, il y a cet aspect-là. Et en effet, certaines études montrent que globalement, les effets sont plus forts quand la personne apprécie l'activité qu'elle fait, par rapport au fait que de forcer une personne à la faire. Et c'est très intéressant, parce que ça nous permet aussi nous orienter sur comment potentiellement accompagner les patients, parce que du coup là on parle de patients qui globalement vont avoir des capacités qui vont plus être les mêmes, mmh. Et même d'ailleurs quand on prend de l'âge, hein, bien évidemment nos capacités vont plus être les mêmes, donc c'est important d'adapter l'activité physique au patient ou à la personne qui vieillit.
Mais donc ça veut dire que là vous parlez du patient, mais ça veut dire qu'il faut aussi s'intéresser aux soignants et aux accompagnants, que les soignants et les accompagnants proposent, j'en sais rien. Est-ce que par exemple quelqu'un qui a un stade avancé d'Alzheimer, le fait d'être posé sur dans un tricycle et d'être dehors, c'est même s'il fait pas de l'exercice physique, ça reste quand même une stimulation et donc une façon de ralentir la maladie.
Alors, ce qui serait avantageux dans cet aspect-là de l'activité, ça serait qu'il ne serait pas tout seul. En fait, oui. le fait d'être entouré, la partie sociale est extrêmement importante aussi pour les malades d'Alzheimer. Oui. C'est quelque chose qui peut vraiment augmenter le déclin cognitif si la personne est isolée. Donc, à ce niveau-là, c'est toujours mieux. Et puis, en effet, d'être à l'extérieur, c'est aussi toujours bien mieux qu'être à l'intérieur.
Très bien. Il est 14h15. Merci beaucoup, Marion. Vous êtes, chers auditeurs, chères auditrices, sur Cause Commune. Vous écoutez Rayon Libre. Nous sommes avec le docteur Marion Lévy, qui est directrice de recherche de la Fondation Vaincre Alzheimer, qui lance une campagne le 2 avril « Bouge ton cerveau » pour lutter contre le déclin cognitif. Je vous propose de commencer par bouger votre popotin. On va s'écouter Grace Jones, Williams Blood, et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
Cause Commune, la voix des communs.
Voilà. À tout de suite.
She married a preacher man, and she settled down in a little part of town. Followed him all around, having little babies, singing in a little church.
Retour Rayon Libre avec docteur Marion Lévy, qui est directrice de recherche de la Fondation Vaincre Alzheimer. Une campagne est lancée dès le 2 avril, Bouge ton cerveau pour lutter contre le déclin cognitif. Marion, cette campagne, elle sert à quoi ?
Eh bien, elle sert finalement à mobiliser les gens pour faire des kilomètres pour bouger, finalement, pour justement faire en sorte de donner des bienfaits à notre cerveau. Et l'idée, en parallèle, c'est que nous, on sensibilise sur les bienfaits de l'activité physique sur le cerveau. Donc, comment ça se passe ? En gros, on invite vraiment tout le monde à s'inscrire à cette campagne-là. Et l'idée, c'est que les gens s'inscrivent à un challenge, un défi, pour faire des kilomètres. Alors les kilomètres, on peut les faire en marchant, en courant, mais aussi en pédalant finalement.
Ouais. Et vous travaillez, alors il y a un hashtag, hein, bouge ton cerveau, c'est ça, et vous,
c'est ça.
L'idée, c'est de, l'objectif, c'est d'accomplir 500 000 km en France, si j'ai bien suivi.
Exactement, c'est national.
Vous travaillez avec des applis de type, alors je vais les citer, Strava, GeoVélo, Komoot ou OpenRunner, des choses comme ça pour calculer, pour mesurer tout ça.
Oui, alors nous on travaille avec Run Motion Coach,
ouais.
Qui est aussi une application justement pour des entraînements, etc. Au quotidien. Et ce qui nous permet de faire, c'est de lancer un challenge, un défi. Et on voit vraiment, donc il suffit de s'inscrire au défi. Et ensuite, on voit à chaque kilomètre parcouru, la barre augmenter.
Ouais.
Et ce qui est vraiment intéressant avec cette campagne-là, c'est qu'on est tous, en fait, tous ensemble, on parcourt des kilomètres. Donc à chaque fois, on voit cette barre qui augmente. Et c'est vraiment collaboratif, en fait. Donc c'est
donc, ça veut dire que tous nos auditeurs et auditrices qui pédalent au quotidien ou pas, qui aillent sur cette appli ou qui postent sur les réseaux sociaux leurs kilomètres qu'ils ont fait avec le hashtag bouge ton cerveau. C'est ça?
Alors, il faudra vraiment s'inscrire à l'application et s'inscrire au challenge de l'application pour justement que leurs kilomètres s'accumulent. C'est d'autant plus facile d'ailleurs si il y a une montre connectée ou quoi, parce que
bien sûr,
le fait automatiquement.
Ouais.
Sinon, ça peut être déclaratif, bien évidemment. Mais voilà, c'est l'idée.
Et les associations sportives, type les cycloclubs ou les clubs de natation aussi, pourquoi pas, ou de randonnée, ils peuvent organiser des événements eux-mêmes?
Alors, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'inscrire en tant qu'équipe, en fait.
Ouais.
Il y a une manière de... Alors, j'invite dans ces cas-là les gens à nous contacter directement. Et en tout cas, ils peuvent créer une équipe. Et dans ces cas-là, ils peuvent voir leur progression par équipe.
Cette campagne, elle est lancée le 2 avril, elle se termine quand?
Le 1er juin.
Le 1er juin, donc ça veut dire qu'on va avoir tout le mois de mai avec notamment l'opération Mai à vélo, sur laquelle ce serait intelligent de faire du bouge ton cerveau pendant Mai à vélo. Les auditeurs, auditrices, ceux qui font du vélo et ceux qui sont un peu dans le milieu associatif le savent qu'il y a un truc qui s'appelle le Mai à vélo. Revenons sur la maladie d'Alzheimer. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, Marion? Le déclin cognitif, il est inéluctable, comme une ride qui arrive puis une autre. Est-ce que vieillir, ce n'est pas une maladie, mais Alzheimer en est une?
Alors, la maladie d'Alzheimer est une maladie et en effet, vieillir n'est pas une maladie. Il faut savoir qu'en fait, ce déclin cognitif, on n'est pas censé l'avoir. Et c'est pour ça que j'invite vraiment tout le monde à bouger dès maintenant. La maladie d'Alzheimer, elle se déclare 15 à 20 ans avant les premiers symptômes. C'est-à-dire que 15 à 20 ans avant les symptômes, le cerveau va commencer à accumuler ces fameuses plaques qu'on a dans le cerveau. Donc, on appelle ça les dépôts amyloïdes et les dégénérescences neurofibrillaires.
Ouais.
C'est deux mots pour dire que finalement, ça va commencer à avoir un problème de communication entre nos neurones et une perte neuronale.
Ouais.
Et donc ça commence 15 à 20 ans avant
15 à 20 ans avant
les premiers symptômes. C'est pour ça qu'il faut vraiment commencer dès le plus jeune âge à bouger, à bien s'alimenter, en fait, à avoir une bonne hygiène de vie. On le voit maintenant, ça permet vraiment d'éviter. On a à peu près 45% des cas de malades d'Alzheimer qui pourraient être évités.
Alors c'est intéressant parce que vous parlez aussi de nutrition et de qualité de vie ou d'hygiène de vie, donc j'imagine que l'alcool ça aide pas beaucoup par exemple.
Voilà. Donc en fait il y a une étude très intéressante qui a répertorié 14 facteurs de risque, très exactement. Alors en plus il y en aura probablement d'autres, pour l'instant en tout cas c'est 14 qui ont été vraiment étudiés, qui incluent en effet donc le tabac, l'alcool, la sédentarité, bien évidemment, donc le diabète, toutes finalement ces hygiènes de vie.
Le diabète c'est pareil, c'est une forme de maladie. Donc,
oui.
Un diabète, il est plus enclin ou plus un terrain privilégié pour Alzheimer?
Voilà, l'obésité, le diabète, etc. Voilà. Alors, bien évidemment, et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à essayer de diagnostiquer et à essayer de le contrôler. Et surtout, c'est aussi prendre en charge tous les problèmes cardiovasculaires qu'on peut avoir avec l'âge. On l'a vu, ça a une importance incroyable. L'hypertension, c'est un très gros facteur de risque. Donc, en fait, on peut essayer d'éviter. Alors, bien évidemment, c'est vraiment, on parle de risque. On parle pas de, donc, on peut quand même avoir la maladie d'Alzheimer, même en ayant une super hygiène de vie, parce que malheureusement, il y a d'autres risques qui, eux, ne sont pas modifiables, comme la génétique, comme l'âge, et comme le sexe aussi.
À partir du genre, donc.
Alors pour le coup, vraiment, entre être une femme biologiquement et un homme biologiquement, voilà.
Et c'est les hommes ou les femmes qui
C'est les femmes.
C'est les femmes qui sont plus sujettes à la maladie d'Alzheimer.
Qui sont plus sujettes à la maladie d'Alzheimer.
À partir du quand notre cerveau il arrête de progresser, il régresse dans les grandes lignes?
Alors dans les grandes lignes, on parle de, apparemment le cerveau commence à être vraiment mature, on va dire à 25 ans et qui commence début de régression dès 25 ans. Après, c'est bien évidemment, tout ça, ça peut se maintenir, etc. On sait maintenant qu'on a aussi la possibilité d'avoir des nouveaux neurones. Donc, voilà, il faut pas attendre 25 ans non plus pour commencer à faire du sport et pour prendre soin de soi.
Il y a pas très longtemps, je lisais une étude sur les conducteurs des black cabs à Londres qui ont développé une forme de mémoire différente et aussi une meilleure résistance à Alzheimer ou en tout cas au déclin cognitif parce qu'ils font travailler leur cerveau pour se déplacer dans Londres. Le GPS, est-ce qu'il serait un facteur de déclin, pour le dire plus justement, mais en gros, est-ce que le fait de faire travailler son cerveau et de se projeter dans l'espace, ça aide aussi à prévenir l'arrivée de cette maladie?
En fait, c'est tout exercice globalement qui permet de stimuler notre cerveau, que ce soit par l'activité physique ou par des exercices de type voilà
sous le cou,
exactement.
Ouais.
Globalement ça fait toujours du bien en fait, et c'est encore mieux quand on le fait avec des gens.
Ouais, finalement. C'est ce que vous disiez juste avant la pause musicale, l'aspect social est hyper important.
Très très important, surtout sur la maladie d'Alzheimer.
On va s'écouter Abel Guggenheim. Abel, il a une mémoire d'éléphant, il doit avoir des prédispositions que je n'ai pas. Moi, je suis plus dory qu'éléphant. Abel, à toi la parole, et puis on aura une dernière petite question pour vous, Marion. Normalement, si je suis pas mauvais, Abel, on l'écoute tout de suite.
Bonjour, je reviens aujourd'hui sur un épisode de l'histoire du vélo à Paris. En 1982, Jacques Chirac, alors maire de Paris, décide de commencer à prendre en compte les cyclistes dans la capitale avec un projet de 30 km d'aménagement cyclable. Des bandes vertes sont peintes sur la chaussée, dénommées couloirs de courtoisie, mais ils sont souvent tracés à gauche des couloirs bus ou sur une partie des voies de circulation générale, et les conditions d'usage en sont mal définies. Ils sont raillés par la presse et rebaptisés couloirs de la morsure par l'humoriste Delfeuille de Ton. Cet échec n'a jamais été officiellement reconnu. Le programme est simplement laissé en l'état sans être poursuivi ni entretenu. Mais surtout, on n'entendra plus parler d'aménagement cyclable pendant plus d'une décennie, ce qui a sans doute fait louper à Paris un virage décisif que d'autres villes ont pris. Il faudra attendre 1996 et le successeur de Jacques Chirac, Jean Tiberi, pour qu'on recommence à essayer de faire de la place aux cyclistes dans la circulation parisienne. La plupart des bandes vertes ne sont pas effacées mais simplement abandonnées. Elles disparaissent progressivement, le plus souvent sans doute à la faveur d'un renouvellement de la chaussée. Ailleurs, c'est la circulation des automobiles qui les efface. Les seuls lieux où elles ont résisté longtemps sont des endroits où il y avait peu de circulation, comme longtemps avenue René Coty dans le 14e arrondissement. À ma connaissance, elles y ont maintenant complètement disparu. Mais il y a un lieu où elles résistent vaillamment, encore aujourd'hui, depuis bientôt 45 ans, la place de la Concorde. D'une part, au nord, devant l'hôtel Crillon, à côté des places de stationnement utilisées par les voitures des membres de l'Automobile Club de France qui a son siège à l'intérieur de cet hôtel, mais surtout en pleine chaussée dans la partie sud-ouest de cette place, entre les chevaux de Marly et la statue de la ville de Nantes. Et ici, c'est simplement dû au fait qu'en bordure d'une des places les plus remplies d'automobiles se trouve une partie quasiment inutile, toutes les voitures passant plus à l'intérieur de la place. On mettra des photos récentes de ces bandes vertes sur le site de l'émission. Mais le fonctionnement de la place a été modifié récemment, les deux sens de circulation passant auparavant de part et d'autre de la partie centrale comportant l'obélisque sont aujourd'hui regroupés sur la moitié ouest de la place du côté des Champs-Élysées. La partie auparavant inutilisée est aujourd'hui bien utilisée et la bande verte risque fort de s'effacer plus ou moins rapidement. D'autre part, un projet de réaménagement complet de la place vient d'être présenté officiellement, qui risque de bouleverser tout l'existant et donc de faire disparaître ces deux vestiges. C'est pour cette raison que je suis revenu aujourd'hui sur ces aménagements anciens. On est en pleine nostalgie des années 80, dans la chanson, la peinture, la mode, le cinéma, la publicité, la littérature. Ne pourrait-on pas conserver cet autre symbole des années 80? Je vous retrouve lundi prochain, 7e jour du mois d'avril de l'an de grâce 2025.
Cause commune, la voix des communs.
C'était Abel Guggenheim. Quand je vous dis qu'il n'oublie pas, il évoque les années 80. Une dernière question pour vous, Marion Lévy. Rappelez-nous quand même l'appli sur laquelle le programme est mesuré et le site internet pour qu'on puisse déclarer tous nos kilomètres.
Oui, alors déjà, il faut s'inscrire en effet sur le site internet vaincrealzheimer.org, oui, et qui vous invitera à télécharger cette application Run Motion Coach, oui, pour ensuite s'inscrire à ce défi Bouge ton cerveau.
Et vous allez le faire ?
Bien sûr, depuis quelques années déjà, je
vous,
le fais.
Vous le faites tous les ans?
Oui, oui. Et c'est ça. Pour moi, j'ai repris le sport grâce à cette campagne.
Oui, donc en plus, c'est une bonne façon de se remettre au sport et à l'activité physique.
Exactement.
Merci beaucoup, Marion Lévy, d'être venue au micro aujourd'hui de Rayon Libre. Auditeur, auditrice, bah ça y est, ce Rayon Libre est terminé. Apprenez, continuez à apprendre, n'oubliez pas, n'oubliez jamais. Je vous souhaite même, en tout cas, de ne jamais oublier qu'une journée sans pédaler, bah, c'est une journée gâchée. Je vous dis à la semaine prochaine. Docteur Marion Lévy, merci beaucoup pour votre temps et vos éclairages. Auditeur, auditrice, mai à vélo, c'est un mai aussi pour bouger son cerveau et pour ne pas oublier.
Merci beaucoup.
Merci. We'll be right back.